Allô, allô, ici Ciné RI.
En 1931, les réalisateurs allemands Victor Trivas et Georges Danoff écrivent et tournent No Man's Land, qui a pour sous-titre Hell on Earth, l'enfer sur terre. Ce film bénéficie d'une musique magnifique de Hans Eisler. Les comédiens Georges Pekley, Ernst Busch, Vladimir Sokolov, Louis Douglas et Hugh Douglas tiennent les principaux rôles. Il s'agit d'une œuvre sonorisée, mais qui revêt le parti pris de ne comprendre quasiment aucun dialogue. Cette singularité est bien plus qu'un choix esthétique. En fait, elle fonde toute la force explicative de cette production, contribuant ainsi à étayer la thèse pacifiste des metteurs en scène qui se décline en trois parties. En avant-propos, un long texte d'avertissement passe tout d'abord à l'écran, qui indique notamment que c'est l'histoire d'un conflit, non celui d'une victoire ou d'une défaite, non l'histoire des armées ou des généraux dont il sera question. Cette déclaration solennelle, qui dénonce les guerres, se présente comme une lourde charge contre les propagandes nationales et comme un appel à l'humanité. La caméra filme tout d'abord des barbelés, des bombardements intensifs, avant de nous montrer des milliers de cadavres qui jonchent les champs de bataille. La première séquence débute peu de temps avant la mobilisation. Nous sommes donc en août 1914. La caméra s'attarde sur la vie tranquille et sans histoire, la banalité quotidienne de cinq jeunes hommes tout à fait ordinaires, cinq hommes de nationalités différentes, ressortissants des principales puissances qui entreront bientôt en guerre. Dès les premiers plans, nous voyons le Britannique tout à la joie d'apprendre qu'il vient d'être père. Congratulations, Mr. Brown, entend-on avec les vagissements du bébé, symbolisant l'avenir radieux en marche. Puis Trivas et Jdanov nous rendent témoins du bonheur simple d'un couple d'amoureux qui s'est formé sous les yeux mêmes du spectateur, au hasard d'une rencontre de la vie de tous les jours. Deux êtres qui se trouvent, s'aiment, flânent dans Paris, admirent la tour Eiffel, longeant les quais de la Seine tendrement enlacés. Il nous invite ensuite dans l'intimité familiale d'un autre homme, le jour de son mariage organisé selon la tradition juive. Sa nationalité ne nous est pas précisée, tout juste nous dit-on quelque part dans le monde. Doit-on pointer là un cliché, un préjugé à caractère antisémite, suivant lequel les Juifs seraient par définition apatrides? Préjugé que véhiculerait le film plus ou moins à l'insu même des metteurs en scène? Ou bien les réalisateurs ont-ils plutôt voulu nous dire que sa nationalité, finalement, n'importait pas? Rien dans le film ne nous permet de trancher ces interrogations. La caméra multiplie les gros plans et musarde longuement sur le repas de fête, les chansons, les danses, la joie des mariés et l'euphorie des convives. Cette cérémonie semble alors prometteuse d'un avenir aussi simple qu'heureux. Le film nous montre ensuite un artisan allemand au travail dans son atelier de menuiserie. Outre les pièces de bois qui correspondent à ses commandes, on le voit fabriquer un jouet pour son fils, jouet qui n'est rien d'autre qu'un canon. Au passage, notons que les réalisateurs reprennent à leur compte un poncif, un cliché inhérent à la psychologie des peuples, au culturalisme le plus trivial, en nous montrant des Français qui s'adonnent à leurs loisirs et s'amusent avec désinvolture, tandis que l'Allemand travaille sérieusement. Par ailleurs, dans un cabaret parisien, un artiste noir, probablement américain, joue un numéro de claquettes sur une musique endiablée et se livre à quelques pantomimes fantasques, devant un public comblé. La deuxième partie de l'œuvre enchaîne sans transition au montage sur la mobilisation de toutes les forces armées. Cette préparation est traitée de manière d'autant plus efficace qu'elle est elliptique. En effet, au son des tambours se succèdent à l'écran des défilés organisés dans les principaux pays belligérants. Dans le cadre d'une écriture filmique particulièrement minimaliste, plusieurs gros plans synthétisent ce tournant historique, avec une rare économie de moyens. Trivas et Jdanov insistent simplement sur les obus, les canons, les décorations et autres emblèmes nationaux. Plusieurs plans soulignent aussi la liesse populaire qui éclate dans chacun des États. Les metteurs en scène entendent pointer là, de manière subliminale, la folle inconscience de ces foules qui exultent d'apprendre que la guerre est enfin là. Tout se passe comme s'ils voulaient démontrer aux spectateurs que c'est la destructivité humaine qui est en cause et non le simple nationalisme belliciste de tel ou tel pays. Des armées défilent alors à l'écran au pas cadencé, sans que l'on puisse bien reconnaître la nationalité de chacune d'elles. La mise en scène semble avoir adopté le parti de les maintenir délibérément dans l'indifférenciation, manière pour les réalisateurs de mettre en exergue une seule et même humanité qui va bientôt s'entretuer. Peu importe l'appartenance nationale, semble nous dire en effet Trivas et Jdanov. Ce qui compte avant tout, c'est de savoir que les soldats vont fatalement se massacrer. Ainsi en va-t-il des cycles de guerre fondés sur un déterminisme implacable, nous indique-t-il mezza voce. Au début de la troisième partie, on retrouve ces cinq hommes envoyés au front sous l'uniforme de leur pays respectif. Dans le feu des combats, ils sont confrontés à un pilonnage incessant et se trouvent, par le plus grand des hasards, coincés dans les décombres d'une tranchée devenue un no man's land. Bien qu'aucun ne parle la langue de l'autre, et bien qu'ils soient stricto sensu des ennemis, ils fraternisent et s'entraident dans le respect de chacun et le souci de tous. C'est ainsi que l'un soigne les blessures, tandis qu'un autre répare les uniformes, qu'un troisième organise les repas et qu'un quatrième s'occupe du chauffage. Quant au cinquième soldat, le juif, ils en prennent soin, tous les quatre, car il est devenu sourd-muet à la suite des bombardements. Soulignons à nouveau que sa nationalité ne nous est toujours pas révélée. Par sa bonne humeur, ses danses et ses chants, l'artiste noir construit le lien entre chacun. Se met ainsi en place une organisation de la survie fondée sur la règle suivante, règle qu'ils ont édictée tous ensemble. Dans le No Man's Land, la guerre n'existe pas. Cette norme commune permet au groupe d'être chaque jour plus soudé, car ses membres se montrent toujours plus solidaires et confiants les uns envers les autres. Certes, ils ne peuvent pas dialoguer, car ils ne connaissent pas la langue des autres, mais s'ils ne se parlent pas, ils ne cessent en revanche de communiquer et de faire systématiquement cause commune. Des sentiments comme la confiance ou l'empathie et des émotions comme la peur, la tristesse, le plaisir, l'angoisse passent uniquement par des gestes, des attentions, des regards, des mouvements du corps qui cimentent puissamment leur unité. Au point que celle-ci devient indéfectible par-delà leurs uniformes et leurs idiomes, présentés par Trivas et Jdanov comme des vecteurs de haine. C'est en fait une véritable trouvaille des réalisateurs que d'avoir construit leur mise en scène sur cette particularité, l'absence de dialogue, véritable épine dorsale de tout le film. C'est la raison pour laquelle cette œuvre n'a pas vieilli et apparaît encore de nos jours si percutante et signifiante. Lorsque ces hommes finissent enfin par sortir tous ensemble de leur réduit, c'est pour s'attaquer à des barbelés qu'ils vont tenter de détruire car ils symbolisent les frontières entre les États, entre les peuples et entre les hommes. Grâce à une écriture cinématographique très novatrice et aujourd'hui encore d'une étonnante modernité, Trivas et Jdanov ont réussi à nous montrer l'histoire d'un conflit, non celle d'une victoire ou d'une défaite, comme le texte mis en exergue du film l'indiquait bien.